La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission ce jour de fête nationale en ce 14 juillet. Alors que la France rend hommage à ses armées, je vous propose de découvrir l'histoire inédite des tirailleurs de la Guinée. Ils ont été de tous les combats, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Indochine, Algérie. Mais aujourd'hui, la France les a oubliés. Avant le référendum de 1958 qui a conduit à l'indépendance de la Guinée, plus de 12 000 Guinéens servaient alors sous le drapeau français.
Le général de Gaulle a voulu aller lui-même exposer les bases de la future communauté française aux peuples appelés à s'y associer. Le chef du gouvernement s'est embarqué pour cette croisière de plus de 20 000 km qui le mènerait à Madagascar, au Moyen-Congo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. Je ne crois pas que l'accueil qui m'a été réservé par la population de Guinée donne à penser que ce peuple puisse avoir quelques reproches à formuler à l'égard de la France.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
L'indépendance est arrivée. Il y avait beaucoup de Guinéens à ce moment dans l'armée française.
On vous a rapatrié en France. Nous, ce qui s'est passé, c'est que nous ne voulions pas venir en France.
Ils ne peuvent pas rentrer en Guinée. Et donc la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'eux.
J'ai fait 15 ans d'armée. On nous a oubliés. On nous a oubliés, c'est comme si on n'a rien fait.
Vous avez fait 20 ans, on ne sait plus quoi faire de vous. On va vous libérer comme ça dans un pays inconnu. Moi, je suis révoltée.
Nous sommes en 1958, c'est l'année de la première décolonisation d'un territoire français, de l'Afrique subsaharienne. Sékou Touré a dit non à De Gaulle et le sort des soldats de Guinée est bouleversé. Mais après l'indépendance de leur pays, près de 1000 soldats guinéens choisissent de demeurer dans l'armée française. C'est ce qu'indique une note longtemps gardée secrète dans les archives du ministère des Armées, une note retrouvée par l'historien Julien Fargetas, l'auteur de la fin de la force noire aux éditions Les Indes Savantes. Ces tirailleurs ont donc été considérés comme des traîtres par leur pays et ils ont été délaissés par la France. Certains sont même restés apatrides pendant des années avant d'être naturalisés français. Nous les avons recherchés pour leur donner la parole et entendre leur version de l'histoire. Les soldats oubliés de la Guinée, c'est un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde signé Daphné Gasteldi.
Julien Fargetas, je suis historien et nous sommes au château de Vincennes, précisément sur le pont qui enjambe les douves. Et nous allons rentrer dans ce beau site de patrimoine qui accueille plusieurs sites, une chapelle, un château, un donjon et puis surtout le service historique de la défense, donc les archives de l'armée française.
En fouillant dans les archives du service historique de la Défense, ici au château de Vincennes, qu'avez-vous découvert sur les tirailleurs guinéens ?
Les tirailleurs guinéens, ça a été une surprise. C'est quelque chose qui n'apparaît pas dans les articles ou les livres d'histoire. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que la Guinée a été le premier territoire africain sous tutelle française à choisir l'indépendance dès 1958. En voyant cette multitude de références aux soldats guinéens, on perçoit tout de suite que voilà, ça a été une question importante. Et donc après, une fois que les inventaires sont répertoriés, il faut aller chercher au fond des cartons.
Tirailleurs, tirailleurs, tirailleurs sénégalais. Gnignon di Djamba, tirailleurs, tirailleurs, tirailleurs sénégalais. Gnignon di Kéman.
Et régulièrement, quand je vais en Afrique, on m'a dit pourquoi tirailleurs, et notamment là-bas, on est convaincu que c'est un terme péjoratif, qu'on les a appelés tirailleurs en faisant référence à l'expression tirer ailleurs, une manière de railler leur piètre capacité au tir. Ça n'a bien sûr aucun fondement historique. Le tirailleur, c'est celui qui bouge, c'est celui qui tend les embuscades, c'est celui qui se replie, qui attaque. Donc on a des tirailleurs sénégalais, mais on a aussi des tirailleurs marocains, malgaches, algériens, tunisiens, tonkinois, voilà.
De la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60, jusqu'aux indépendances africaines, il y a eu des centaines de milliers de soldats africains. Après vos recherches dans les archives, est-ce que vous arrivez à estimer le nombre de soldats guinéens parmi cette force noire, comme on l'appelait ?
On sait précisément combien ils sont quand la Guinée devient indépendante en 1958, un peu plus de 12 000 hommes, parce que l'armée les recense. On en trouve en France, en Algérie, au Maroc, en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale. Donc ils sont un petit peu partout disséminés et ce sont à l'époque des volontaires. Et effectivement, la Guinée à l'époque est un gros pourvoyeur de soldats pour l'armée française.
Il y avait des signes distinctifs pour ces soldats africains, notamment l'uniforme.
La tenue de tradition du tirailleur, et tout le monde la connaît, c'est cette fameuse chéchia rouge. La chéchia du tirailleur, c'est ce chapeau porté sur la tête d'origine arabe ou maghrébine. Et pour ceux qui auraient un petit peu de mal à visualiser le chapeau en question, c'est le chapeau du tirailleur banania. C'est celui qu'on voit sur toutes les publicités de l'époque.
Julien Fargetas, dans votre livre « La fin de la force noire, les soldats africains et la décolonisation française », vous avez pu indiquer les chiffres du recrutement en Afrique occidentale française. On voit ici que parmi les 8 anciennes colonies de cette fédération, les Guinéens étaient très représentés dans l'armée française.
La Guinée est traditionnellement une des colonies de l'AOF où l'on recrute le plus depuis les années 20, pour différentes raisons, mais surtout parce que le recrutement est aussi un moyen de subsistance avec des recrutements qui peuvent se faire de père en fils, que ce soit durant l'entre-deux-guerres ou après l'immédiate Seconde Guerre mondiale. La Guinée, c'est par exemple entre 17 ou 16% des recrutements de l'ensemble de l'AOF à égalité avec la Côte d'Ivoire ou le Soudan.
Quand on voit tous ces documents existants sur l'histoire des soldats guinéens, on ne peut que se poser une question, pourquoi ce n'est pas dans les livres d'histoire ?
Oui, effectivement, c'est surprenant. Alors, il y a la question du délai de communication des archives, 50 ans. Il y a aussi le fait que, d'une manière générale, l'histoire des soldats africains se concentre souvent sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une explication sur entre guillemets, ce silence autour de l'histoire de ces soldats guinéens.
Conakry réservait à l'arrivée du général de Gaulle des scènes d'enthousiasme analogue.
1958, c'est la fameuse tournée du général de Gaulle dans les pays du continent africain. Le président de la 5e République française veut fédérer les anciennes colonies de l'Empire dans une communauté dite franco-africaine. Mais lors du référendum du mois de septembre 1958, la Guinée de Sékou Touré dit non et devient le premier pays d'Afrique subsaharienne indépendant, ce qui pose la question de l'avenir des jeunes soldats de la coloniale.
Ça va toi ? Ça va bien ? Enchanté. Ça va ?
Asseyez-vous.
Je me présente, je suis M. Condé Lamine. Je suis né le 9 février 1936 en Guinée. Vous avez la carte de la Guinée ici, si vous voulez vous repérer. Hein?
Je suis né ici.
À la frontière avec la Sierra Leone. J'ai travaillé au service topographique comme fonctionnaire. C'est là-bas j'ai été appelé à l'armée. Et à ce temps-là, comme la Guinée faisait partie des colonies françaises, on était appelé pour 3 ans. Les colonies. La UEF, c'était Afrique occidentale française. Il y avait 8 colonies. Mais proprement parlé, je suis arrivé en France en 1964. Après la guerre d'Algérie, parce que j'ai fait la guerre d'Algérie. Après la guerre d'Algérie, je suis retourné au Sénégal parce que je ne pouvais pas rentrer en Guinée. Il faudra que je commence par le début parce que sinon on n'allait pas comprendre. Voilà.
Donc vous venez de retrouver dans vos archives votre brevet militaire.
Ouais. Engagé, délivré le 10 mai 1957 au 4e BCCP, bataillon commando colonial parachutiste. Ça c'est le livret parce que ça fait que j'ai sauté en parachute. Le dernier saut effectué dans ce livret, septembre 64. Oh là là, mais où je l'ai mis, cette carte d'identité? Ah, il est là, il est là, il est là. Voilà la carte d'identité avec laquelle je tiens. Regardez bien. Colonie française, regardez bien, c'est marqué carte d'identité. Hein. Le Haut Commissariat de l'AOF.
Et alors, ça date de
56, ouais.
Les couleurs commencent à partir, il y a votre photo en noir et blanc. Et ce qui est marquant dans cette dernière carte d'identité guinéenne que vous avez eue, c'est qu'elle date de 1956, soit 2 ans avant l'indépendance de la Guinée.
Exact.
Pour une Afrique unie et indépendante, vive la République de Guinée!
Lamine Condé, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez appris cette nouvelle alors que vous étiez enrôlé dans l'armée française?
Par radio, on a appris. J'étais à Dakar. Comme moi, j'avais signé déjà et tout. Je ne voulais plus revenir sur ma décision. J'avais signé, je suis resté pour la France. J'étais inquiet parce que moi, il y avait mes parents et tout. Mais nous, une partie, comme nous, dans laquelle je me trouvais, nous avons dit, nous allons finir le contrat, après nous allons rentrer. Malheureusement, au bout de quelques temps, la situation s'est gâtée avec Sékou Touré. Alors, Sékou Touré, c'était le premier président de la République de Guinée, Sékou Touré, qui a dit non à la France. Sékou a bloqué tout le monde. Il dit maintenant, tous les militaires qui sont restés avec vous, au lieu qu'ils puissent rentrer maintenant chez nous, je ne veux plus les voir. Tous les Guinéens qui sont restés avec l'armée étaient condamnés à rester avec la France.
Quelques années après, le discours de Sékou Touré change.
Voilà, vers 63.
Et les soldats guinéens
ne pouvaient plus rentrer. Donc, on était devenus des traîtres. Et j'ai quitté l'Algérie, je suis parti au Sénégal. J'ai repris l'armée jusqu'en 64. Maintenant, il y a eu l'indépendance de tous les pays africains. Ces pays-là ne voulaient plus de l'armée française sur leur territoire. Ils ne voulaient plus avoir d'autres noirs si ce n'est pas leur propre armée à eux. Parce qu'il y avait confusion entre leur armée et l'armée française. C'est pour cela que je crois que la France a trouvé qu'il fallait rapatrier maintenant les Guinéens qui se trouvaient dans tous les territoires qui ont acquis leur indépendance en France. On était devenus des apatrides. Parce que les autres pays ne voulaient plus de nous. Ils ne voulaient plus de nous. La France était obligée de nous envoyer en France. Allons, enfants de la patrie, le groupe de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé.
Pour bien comprendre l'impact de l'indépendance sur le sort de plus de 12 000 soldats guinéens, il faut se pencher sur les archives du ministère des Armées. Nous obtenons l'autorisation de consulter la fameuse note découverte par Julien Fargetas dans un des cartons d'archives longtemps restée secrète, c'est au château de Vincennes.
Alors sur chaque carton, donc, on a des cotes. Par exemple, on peut lire sur le carton GR2R80, donc la série R, la série T, la série R correspondant au cabinet du ministre des Armées, la série T à l'état-major de l'armée de terre. Donc le dossier 7, intitulé « Situation des militaires guinéens en service dans la métropole ou en AFN 1958 ». Afrique française du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc.
Les feuilles sont jaunies, on voit un tampon rouge qui frappe ces documents du terme secret.
Oui, secret, parce qu'à l'époque, effectivement, tout ce qui avait trait à la correspondance militaire avait un caractère secret, d'autant plus qu'on est en pleine guerre d'Algérie. Hein, donc, à l'époque, effectivement, ça avait été classé pour certains secrets. Donc ici, on a une note du ministère des Armées, de la direction des troupes d'outre-mer. Et elle nous dit, c'est la première ligne, que ces soldats guinéens servant en métropole ou en Afrique du Nord sont tous liés par contrat à l'armée française Et elle précise que ces soldats vont avoir un choix à faire, c'est-à-dire rester dans l'armée française ou rompre leur contrat et donc regagner par la suite la Guinée. Leur libération ne pourra pas toutefois intervenir avant le 1er janvier 59.
Cette note de service avec le tampon secret est très symbolique. Nous sommes 2 jours après l'indépendance de la Guinée et l'état-major s'interroge sur le sort de ces soldats guinéens.
On est effectivement au cœur du problème puisque on a à peu près entre 12 et 13 000 soldats guinéens qui servent au moment de l'indépendance dans les rangs de l'armée française. Et une bonne part d'entre eux sert en Algérie, donc en pleine guerre, hein, des colonisés qui vont faire preuve d'une fidélité quasiment à toute épreuve. Hein, on n'a pas de rébellion collective, on n'a pas de désertion de masse de soldats africains. Néanmoins, l'armée française est consciente de cette situation, des colonisés qui combattent des colonisés, et l'armée française craint, se méfie de possibles collusions qui font que ces soldats africains sont particulièrement surveillés quand ils reviennent d'Indochine. On craint en Algérie que des liens se tissent entre tirailleurs africains, musulmans et algériens, justement sur ce terreau de la religion. Là, on a une espèce de méfiance tout azimut qui fait que la confiance est quand même largement altérée.
Et sur le terrain algérien, le FLN tractait d'ailleurs pour appeler les colonisés à être solidaires entre eux.
Oui, et le FLN va user de plusieurs messages, hein, un message religieux, un message de coloniser à coloniser, justement. Donc là, nous sommes toujours face à une note de service du ministère des Armées qui est destinée au chef des états-majors de l'armée, objet guinéen en Algérie, toujours classé secret et daté du 22 octobre 1958. Et là, ce qui est intéressant, notamment, c'est qu'on a des chiffres de la présence des Guinéens en Algérie, où la note nous précise qu'ils sont 300 sous-officiers et 4300 hommes de troupes. Le départ qui est possible de ces soldats pose 2 problèmes, nous dit la note, celui de leur rapatriement, celui de leur remplacement éventuel dans les unités. D'abord, c'est la stupeur qui intervient lorsque les Guinéens, leurs cadres, prennent connaissance des résultats du référendum de septembre 58, et donc du choix de la Guinée de prendre son indépendance. Et puis rapidement se pose la question de leur avenir, et eux, sur le terrain, maintiennent une correspondance avec leur famille, et à l'approche des échéances, tout le monde s'interroge. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Que vont devenir nos familles? Va-t-on conserver notre solde? Quel sera notre statut? Allons-nous toujours toucher nos retraites? Voilà. Mais qui vont rapidement agir sur le moral de ces soldats. Et la majeure partie d'entre eux va demander donc la rupture de leur contrat et donc le rapatriement vers la Guinée, ce qui va poser problème, puisque en Algérie, ils sont très nombreux. Et ces soldats vont vite s'impatienter et sur le terrain vont refuser clairement de prendre part aux opérations, et ce qui va créer un climat délétère au sein des différentes unités.
Oui, je me souviens que c'était assez tendu, parce qu'ils ne faisaient plus rien. Ils partaient plus en opération, ils ont été regroupés entre eux.
Et pour cause, lorsque des colonisés combattent des colonisés, l'armée française craint des collusions. Les soldats d'origine française qui ont fait la guerre d'Algérie peuvent en témoigner.
Je m'appelle Laurent Zachary, j'ai 81 ans et j'étais dans l'intérieur sénégalais. Alors j'étais français, c'était un peu cocasse.
Donc vous êtes ce qu'on appelle un appelé du contingent.
Oui.
À quel âge vous êtes parti pour la guerre d'Algérie?
Eh bien, je suis parti, j'avais 20 ans, et c'était en janvier 58. Eh bien, après la période d'instruction, j'ai été versé dans le 5e régiment intérieur sénégalais. On était peut-être une dizaine ou une quinzaine de métropolitains, comme on disait à l'époque. Je pensais que c'était l'intérieur sénégalais, c'était d'un autre temps.
Dans votre carnet, au milieu, il y a quelque chose d'assez particulier. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Ce sont 2 bulletins de vote pour le référendum de la Constitution du 28 septembre 1958. Donc le nom est de couleur violette et le oui en couleur blanc.
Il y a ce référendum proposé par le général de Gaulle pour créer la communauté française et la Guinée rejette, dit non au référendum.
L'indépendance de leur pays les travaillait, oui. On avait de bonnes discussions là-dessus, sur la colonisation, sur les torts de la France. Mais tout ça dit avec des gens qui étaient quand même payés par la France. Donc c'était très ambivalent, quoi. Mais enfin, il y avait cette question d'indépendance, oui, qui travaillait certains soldats, certains gradés aussi. Bon, dans mes souvenirs, ils étaient à l'écart de la troupe. Et j'ai le souvenir que ça avait été assez tendu, disons, à l'intérieur de la compagnie.
Entre 1958, date de l'indépendance de la Guinée, et 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, la France perd l'essentiel de ses colonies. Mais dans quelle situation se retrouvent alors les Guinéens qui ont choisi de continuer à la servir? Suite de notre enquête aux archives du ministère des Armées, avec l'historien Julien Fargetas, au micro de Daphné Gastaldi.
Ici, on voit un document de janvier 63 du ministère des Armées. Qu'est-ce que dit ce document?
Alors, il traite du rapatriement et des indemnités d'éloignement des militaires guinéens licenciés. Donc là, on parle des soldats guinéens qui, en 1958, ont choisi de rester sous l'uniforme français.
Janvier 63, c'est une date symbolique, car c'est à cette période que le président guinéen Sékou Touré refuse le retour des soldats guinéens qui sont restés servir la France.
Oui, c'est une question essentielle, parce que ces soldats guinéens, finalement, sont licenciés par l'armée française. La Guinée ne veut pas d'eux, parce que Sékou Touré voit en eux de potentiels agitateurs au service de la France. Voilà. Donc ces soldats se retrouvent dans une situation, une nouvelle fois, très délicate. Ils ne sont plus soldats de l'armée française, ou sous quelques mois, ils ne vont plus l'être. Ils ne peuvent pas rentrer en Guinée. Et donc la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'eux. Et cette question va agiter différents ministères français entre 1963, 64, 65, 66, voire même jusqu'au début des années 70.
Quand la question des soldats guinéens sera vraiment réglée en France?
Ah, j'ai envie de dire qu'elle s'est réglée un petit peu au fil de l'eau, puisque on trouve encore dans les archives la trace de certains d'entre eux jusqu'en 69-70, dans des situations parfois très délicates, des gens qui sont quasiment abandonnés en France métropolitaine, qui ont dû quitter l'armée, qui se retrouvent en France sans nationalité française, sans le bagage professionnel ou scolaire qui pourrait leur permettre de rebondir, comme on dit. Alors, ce sont à chaque fois des trajectoires individuelles qui sont très difficiles à cerner. Certains sont restés dans l'armée française, ont fait carrière, une fois arrivés à l'âge de la retraite, sont partis à la retraite, et puis d'autres ont quitté l'armée.
Et ils ne pouvaient plus rentrer en Guinée.
Ils ne pouvaient plus rentrer en Guinée.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient parfois apatrines dans ces années d'hésitation?
Pour certains d'entre eux, effectivement, durant quelques années, on peut les considérer comme apatrides. Non citoyens français, pas citoyens guinéens, parce que la Guinée ne veut pas d'eux. Et donc, ils vont devoir entreprendre de manière individuelle des démarches pour obtenir la citoyenneté française en France métropolitaine. En septembre 1962, ce sont les militaires guinéens qui sont en garnison à Bouaké, en Côte d'Ivoire, s'adressent directement au ministre en exposant leur situation, en rappelant qu'ils ont opté pour le maintien dans les rangs de l'armée française, qu'ils entendent aller jusqu'aux 15 ans de service. 15 ans de service est important, c'est ce qui permet de toucher une pension de retraite intéressante. Nous demandons avec insistance votre intervention auprès du gouvernement français, notre maintien dans les rangs de l'armée française jusqu'à 15 ans. Nous sommes unanimement d'accord pour servir dans n'importe quel pays où la France dispose de bases. Le renvoi prématuré d'un Guinéen à 11 ans de service peut provoquer des conséquences graves sur le plan moral et social de l'individu. En quittant la Guinée, nos compatriotes nous considéraient comme des traîtres à la nation, déjà. Nos camarades qui ont eu leur retraite et rentré en Guinée ont toute peine à se rétablir. Notre sort serait encore pire si les mesures envisagées nous obligent à rentrer en Guinée à 11 ans de service. Et c'est signé les Guinéens du 5e bataillon d'infanterie de marine. Donc là, on est face à la copie d'un télégramme de novembre 1963. Où on nous dit que le président Senghor, donc le président du Sénégal, vient de rencontrer le président guinéen Sékou Touré et que le président sénégalais a évoqué justement la question des soldats guinéens. Et le télégramme nous dit que Sékou Touré accepterait de recevoir en Guinée tous les ressortissants guinéens libérés de l'armée française, sous réserve toutefois que la pension des intéressés soit liquidée au préalable et qu'il soit assuré d'en pouvoir percevoir le montant en Guinée. Donc la France passe par des chefs d'État africains pour intercéder en faveur de ces soldats guinéens. Un nouvel exemple de l'intervention des chefs d'État africains pour tenter de régler ce problème des soldats guinéens, on est en février 1964 à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Et le télégramme nous dit que 14 soldats guinéens ont été libérés, donc licenciés, à compter du 2 février, et que ces derniers ont refusé cette libération. Ils ont gagné l'état-major donc des troupes françaises sur place. Ils n'ont pas obtenu de passeport. Ils ont refusé de quitter l'état-major et ils ont dû être évacués de force. Le télégramme nous dit « Le président de la Côte d'Ivoire a été mis au courant de cet incident. Suite à cette intervention, le ministre des armées de Côte d'Ivoire a reçu les intéressés et leur a précisé que le président allait intervenir auprès du président guinéen pour obtenir leur visa de rentrée en Guinée. Et en attendant la réponse de la Guinée, il serait pris en charge par le gouvernement de Côte d'Ivoire. » Et la question est, voilà, la question est sensible, et, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces soldats, puisque les autorités françaises se sont adressées à d'autres pays africains pour les accueillir. Hein, ils sont nommés ici, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey, et que ces pays africains soit refusent de les accueillir, soit acceptent, mais avec des conditions tellement... drastique que finalement ça ne concerne que très peu d'hommes ou très peu de familles. Donc la question se pose de savoir ce qu'on va faire de ces soldats guinéens et donc on décide de les envoyer au camp de Rivesaltes.
Je suis M. Baldé, je suis à Lyon. J'étais engagé militaire dans l'armée française à l'époque 1956, à Dakar, Sénégal. Je suis originaire de la Guinée, ex-Guinée française. J'ai 82 ans. Je n'ai pas combattu. Par contre, j'ai fait des missions en Mauritanie à l'époque 59. J'étais dans la formation de transmission, des transmetteurs. Et les transmissions de la radio, on communiquait en morse. J'étais sous-officier dans l'armée française.
Une fois qu'il y a eu l'indépendance prononcée en octobre 1958, où est-ce que vous avez été conduit par l'armée française ?
c'est pas en 58, on est resté dans le territoire où nous étions. Après, il y a eu les États africains qui ont eu leur indépendance, comme c'est le cas au Sénégal. On a quitté le Sénégal en 64. On vous a rapatrié en France, on dit rapatrié, c'est le mot rapatrié, je crois que c'est notre patrie, c'est la France. Seulement, nous, ce qui s'est passé, c'est que nous ne voulions pas venir en France. On nous a donné l'ordre de venir en France. Donc, on nous a envoyés dans le camp de Rivesaltes. On a été escortés par les militaires. Parce qu'il y a eu des bagarres entre les militaires guinéens et les autorités. Donc, voilà. Certains, on les a amenés carrément en prison ici à Marseille. Moi, je suis resté 3 ans. C'est une fille qui est née à Rivesaltes. On était en quelque sorte en attente. En attente de quoi, je n'en sais rien. Déjà que pour apprendre à lire pour certains, c'était une bonne chose. Ils ont fait une école pour les femmes, pour les apprendre un métier à faire la couture, à tricoter.
Vous saviez à l'époque que ce camp avait été un camp d'internement pour les Juifs, les Tziganes, puis un lieu où les Harkis ont résidé?
Mais c'est après qu'on l'a su. Du coup, c'est pour cela qu'on dit qu'on ignorait du tout. C'est un mauvais souvenir du passage au camp de Rivesaltes.
De là.
On se rend à Vénissier, voir M. Ba. C'est un ancien camarade.
Oui.
Entrez.
Mon cher ami.
Comment vas-tu?
Ça va.
Ça va.
Entrez. 45215, c'était mon numéro de matricule. Je suis Ba Sakamisa. Je suis né en 1936, j'ai fait l'Algérie et de l'Algérie, ensuite, je suis parti au canal de Suez en 1956. J'ai atteint le grade d'adjudant-chef.
Sakamisa Ba, le 28 septembre 1958, lorsque la Guinée a dit non au référendum pour créer une communauté franco-africaine, ce qui a enclenché son indépendance, où étiez-vous et comment avez-vous appris cette nouvelle?
J'étais au Sénégal. On s'est rebellé, et puis c'est ça l'histoire de Thiès.
Donc vous vous êtes rebellé pour finir votre contrat?
Ils nous ont rassemblés, ils vont nous désarmer. On a dit non, on ne va pas désarmer comme ça, on est militaire français, donc on restera toujours français. On s'est battu avec la force de l'ordre, on s'est battu. Et à 18h, on était tous fatigués. Eh bien, on s'est mis en colonne par 6, en chantant la Marseillaise, eh bien, ils nous ont embarqués.
Où?
Eh bien, à Thiès, ils nous ont pris, ils nous ont amenés à Yoff. Yoff, c'est à Dakar, à l'aéroport. Et à l'aéroport, ils nous ont enchaînés, ils nous ont embarqués dans l'avion et direction Perpignan.
Après avoir servi la France, après avoir choisi de rester dans l'armée française, le soldat Baldé et le soldat Ba étaient donc basés à Dakar, au Sénégal, l'ancienne capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Mais aucune des nouvelles nations africaines n'a voulu prendre en charge les soldats guinéens et leurs familles. Et si la France a tenté de négocier avec la Guinée, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, elle s'est retrouvée dans l'impasse. Les soldats guinéens sont rapatriés en France avec les mutins de Thiès, qui eux seront jugés puis obtiendront un non-lieu. Et c'est dans les archives du ministère des Armées, enfin déclassées, que se trouvent les preuves de la décision d'assigner les soldats guinéens au camp de Rivesaltes.
On a ouvert un autre carton d'archives. Qu'avez-vous trouvé dedans, Julien Fargetas?
Une nouvelle fiche en date du 21 octobre 1964. Cette question des Guinéens concerne 483 soldats. Ces soldats sont mariés à 435 épouses et ils ont avec eux 1144 enfants. À la fin de l'année 1964, donc lorsque l'armée décide définitivement de licencier les soldats guinéens, ils ne peuvent pas être accueillis en Guinée, puisque le gouvernement guinéen refuse. Les États africains voisins ne veulent pas entendre parler du sujet, ou de manière anecdotique, hein, si le soldat guinéen est marié avec une dahoméenne ou nigérienne, là effectivement il peut s'installer. Donc on ne sait pas quoi faire de ces soldats, et on décide, entre guillemets, de les rapatrier, hein, c'est le terme qu'on trouve dans les documents, sur le camp de Rivesaltes, donc qui est situé dans les Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de Perpignan. Et ici, on voit une correspondance du préfet du département. Alors, objet, ressortissant guinéen en résidence au camp de Rivesaltes. Alors, l'appellation en résidence n'est pas forcément très, très adaptée, mais néanmoins, le document est intéressant, puisqu'il nous donne des chiffres. Au 11 décembre 1965, avec une population estimée, en totalité, à peu près 680 personnes, et le préfet du département, comme tout le monde, s'inquiète de leur situation, puisqu'ils logent dans le camp, qui doit être prochainement fermé, c'est-à-dire que l'armée doit retirer toute son infrastructure. Le préfet dit à sa hiérarchie: « J'appelle votre haute attention sur l'intérêt éminent qui s'attacherait à la recherche urgente de la seule solution définitive tendant au retour de ces Guinéens en Afrique. » Voilà. On les accueille à Rivesaltes et on décide de fermer le camp et de les laisser sur place.
C'était vraiment les oubliés de l'armée.
C'était même plus que des oubliés, parce que finalement personne n'en veut. Donc ce sont des rejetés. On essaye toutes les solutions pour finalement se débarrasser d'eux, mais aucune n'aboutit, puisque leur volonté à eux, c'est de rester dans l'armée française, puisque pour eux, ils se sont engagés dans l'armée française et ce sont des soldats français.
Ce camp qu'on appelle le Drancy du Sud-Ouest, où des Juifs ont transité pendant la Seconde Guerre mondiale, ou des Harkis ont transité, et des soldats guinéens, complètement oubliés des archives de ce camp.
Oui, complètement oublié des archives de ce camp, et alors qu'on a un mémorial magnifique au demeurant qui a été inauguré il y a quelques années par le Premier ministre.
Et je n'oublie pas ces tirailleurs guinéens qui échouèrent aussi ici à Rivesaltes.
16 octobre 2015, inauguration du mémorial de Rivesaltes par Manuel Valls.
Ainsi, pendant plus de 4 décennies, des hommes, des femmes, des enfants se sont retrouvés pris au piège de ce camp, regroupés, parqués, humiliés, niés, car considérés comme des indésirables, des ennemis, des étrangers, dont on ne voulait pas.
Et lorsque le visiteur lambda parcourt la muséographie du mémorial de Rivesaltes, voilà, il découvre effectivement que ce camp a été construit pour accueillir, c'est un paradoxe d'ailleurs de l'histoire, les troupes coloniales à la fin des années 30, et puis on y met les réfugiés espagnols, on y met les juifs, on y met les harkis, on y met des rapatriés d'Indochine, et puis en toute fin de muséographie, on a une photo d'une famille africaine dont on nous dit que ce sont des soldats guinéens, et on s'arrête là.
Mais les soldats guinéens et leurs familles ne s'en sont pas arrêtés là. Les naufragés de Rivesaltes se mobilisent afin de faire valoir leurs droits. Ils écrivent au général de Gaulle et montent à Paris pour remettre leurs lettres à l'Élysée.
On se souvient que le 5 janvier 1966, les militaires guinéens, avec femmes et enfants, manifestent devant l'Élysée et interpellent le général de Gaulle sur leur situation. Le général de Gaulle réagit, donne des consignes pour que leur sort soit réglé par des reclassements, par des propositions de formation. Malgré tout, on s'aperçoit que la voie de la fermeté est maintenue. En atteste ce rapport de gendarmerie du 23 février 1966, puisque la gendarmerie et les CRS interviennent dans le camp de Rivesaltes pour se saisir d'une partie des soldats qui sont considérés comme des meneurs, et pour les évacuer de force.
Que réclamaient les soldats guinéens qui sont allés jusque devant l'Élysée pour déposer une lettre au général de Gaulle ?
La revendication de ces soldats guinéens, elle est simple. Ils veulent réintégrer les rangs de l'armée française. Ils veulent aller au bout de leur contrat, 11 ans, 15 ans. Voilà. Mais surtout, ils demandent beaucoup plus de considération que ce dont ils ont pu bénéficier jusque-là.
Surtout que souvent, dans ces familles, eux ont combattu pour la France dans différents terrains de guerre, mais aussi leurs parents ou leurs grands-parents.
On peut parfois parler de dynastie de tirailleurs, hein, où on est au service de l'armée française ou de l'administration française de père en fils. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que même parmi les descendants de ces soldats guinéens qui ont été maltraités par l'armée française, on retrouve encore parmi leurs descendants des gens qui sont dans la police, qui sont dans l'administration pénitentiaire, qui sont officiers dans l'armée. Donc voilà, malgré tout, la continuité a perduré.
L'armée française s'intéressait aussi à la perception de ces soldats guinéens dans leur pays d'origine.
Oui, d'autant plus que le journal qui s'appelle L'Oroya, qui est l'organe du quotidien du parti entre guillemets démocratique de Guinée, donc le parti officiel, dans son édition du 15 janvier 1966, ces soldats guinéens sont accusés d'avoir choisi par exemple la carrière de mercenaire. Ils ont choisi, à la grande indignation de notre peuple, la carrière de mercenaire. N'est-ce pas avec un contingent spécialement composé de militaires d'origine guinéenne que le colonialisme français revanchard comptait lancer une agression contre la République de Guinée aux premières heures de notre libération nationale ? S'ils croupissent dans les baraquements puants au fond des Pyrénées, si le paradis qu'on leur promettait est devenu un enfer épouvantable, ils doivent s'en prendre à la même Guinée qu'ils ont reniée hier. Voilà, on est dans toute la... Comment dire, le vocabulaire, la sémantique de ces couturiers qui, à un moment, accusaient systématiquement aussi la France de complot, de fomenter des complots, des attaques de mercenaires. Et donc, forcément, qui mieux que ces soldats d'origine guinéenne pour intégrer ces complots destinés à le destituer. Donc, la situation des soldats guinéens va connaître une issue tardive. Puisqu'à la fin des années 60, on relève que pour certains d'entre eux, les conditions de vie, puisqu'ils sont restés en France, en métropole, et on nous parle de conditions de vie déplorables, perspectives d'avenir en dessous du médiocre. Voilà. Et là encore, on a un document d'un colonel qui trouve cette situation anormale et qui demande que les choses soient réglées au plus vite. Et on est à la fin de l'année 1968.
1968, c'est 10 ans après l'indépendance de la Guinée, 10 ans que ce problème perdure pour les soldats guinéens enrôlés dans l'armée française.
Et à l'époque, le destin des soldats guinéens fait la une du journal français Le Monde du 7 janvier 1966. C'est un article conservé précieusement par Nakana Benson. Elle est fille de soldats.
Une trentaine de soldats guinéens ayant servi dans l'armée française manifestent devant l'Élysée. Venus du camp de Revizalte à Paris, à bord de 2 cars, ces militaires, dont certains étaient accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, ont stationné une demi-heure devant le porche du palais présidentiel, avant de déposer à la loge d'honneur une lettre de protestation destinée au général de Gaulle. Ces militaires, qui après la proclamation de l'indépendance de la Guinée en septembre 1958, avaient demandé à rester dans l'armée française dans laquelle ils avaient contracté un engagement de 15 ans, protestent contre leur libération anticipée. Je suis Nakana Benson. Je suis de la deuxième génération, j'ai 59 ans. Je suis la fille de Matona Doré et de Kone Sagnon. Matona Doré fut un ancien combattant guinéen, il était dans l'armée française. Mes parents sont restés au camp de Revizal 2 ans.
Vous aviez quel âge ?
Et moi je suis arrivée, j'avais 4 ans et demi. Ce que je me rappelais, c'est qu'on est arrivé, on a pris le bateau et on est arrivé à Marseille. Il y avait mon grand frère, il y avait moi et il y avait ma petite sœur, qui était encore bébé. C'est que quand ils sont arrivés, les papas, ils sont arrivés en premier dans ces baraquements-là. Il y avait les trous dans les baraquements du camp de Revizal
le froid rentrait. Donc certains papas ont commencé à mettre des couvertures sur les murs pour essayer de colmater ces trous-là, pour pas que les mamans aient froid. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité dans le camp. Le camp de Rivesalt, pour moi, c'est le vent. Il faisait froid.
On dit que Rivesalt, c'est le Drancy du Sud, parce que pendant le régime de Vichy, il a servi aussi de camp d'internement pour les Juifs ou les Tziganes. C'est un parallèle terrible.
Voilà, ça fait qu'on ressent la même chose. Même si c'est sur 2 ans, même s'ils n'ont pas été déportés sur l'Allemagne, ça faisait comme si on avait la même histoire que les Juifs, quoi. On se questionnait sur eux. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Quand il y a eu l'indépendance en 58, la France les abandonne. On vous prend, vous avez fait 20 ans dans cette armée, on vous met dans des cabanes, dans des baraquements. Vous avez fait 20 ans, on ne sait plus quoi faire de vous. Moi, je suis révoltée pour ça. J'arrive à en parler maintenant, parce qu'avant, quand j'en parlais, j'essayais de raconter, j'essayais de connaître, ça me faisait pleurer, mais maintenant, c'est bon. Nous, les enfants des militaires guinéens, avons repris leur association sous le nom de Association des enfants des anciens combattants français d'origine guinéenne. Ma mission, c'est de faire connaître à mes enfants, à mes petits-enfants, d'où ils viennent. On sait qu'on est guinéen, mais la plupart des enfants des anciens combattants ne savent pas que les parents, jusqu'en même en 84, n'avaient pas de nationalité française. Ne savaient pas que les parents devaient pointer auprès de la gendarmerie comme s'ils étaient des assassins. Ils n'ont pas eu connaissance de ce qui s'est passé dans le camp de Rivesalt. On ne sait même pas pourquoi on a été transféré au camp de Rivesalt.
Le 14 juillet, lors du défilé militaire de la fête nationale en France, qu'est-ce que vous ressentez ?
Le 14 juillet, je suis le 14 juillet en espérant que l'État français va avoir quand même une conscience pour dire il y a eu des militaires, et parmi ces militaires africains, les Guinéens étaient là aussi. Et on reconnaît qu'il y a un moment, je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là, on ne savait plus trop quoi faire d'eux. Quand je regarde le défilé, j'ai envie de croire qu'on va parler des militaires guinéens un jour.
Les soldats oubliés de la Guinée, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Daphné Gastaldi et réalisé par Sophie Janin. Tous nos remerciements à Nakana Benson et à l'Association des enfants des anciens combattants d'origine guinéenne, ainsi qu'aux anciens combattants messieurs Condé, Zachary, Baldé et Ba pour leurs témoignages précieux. À l'historien Julien Fargetas, auteur du livre La fin de la force noire, paru aux Indes savantes. Et puis nous remercions bien sûr le service historique de la Défense, rattaché à la Direction des patrimoines de la mémoire et des archives du ministère des Armées, pour nous avoir facilité l'accès à ces archives. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, vous retrouverez là-bas toutes les photographies de nos témoins, réalisées par Daphné Gastaldi. Et puis bien sûr, exprimez-vous, podcastez cette émission encore et toujours, c'est la vôtre.